La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
C'est toujours une lourde responsabilité que de donner le discours d'inauguration, car tel un fondement, ce dernier doit être bien posé. Et comme vous avez pu le constater, le thème de ce committing, de ce séminaire, eh bien, est les fondements renversés. Et le texte de base, comme vous avez pu le constater également, se trouve en Psaume 11, verset 3. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le Psaume 11 et considérons-y là le verset 3. Psaume, chapitre 11. Et au verset 3, Psaume 11, verset 3, et là, nous lisons que « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ?» Le terme traduit par « fondement » vient de l'hébreu « shit », qui signifie « support fondamental pour une structure ». Dans ce verset, shit est au pluriel. Il s'agit donc là de supports fondamentaux. Renverser, quant à lui, vient de l'hébreu haras. Ce verbe a pour sens être détruit ou endommagé de manière irréparable. Contrairement à d'autres versets, il ne s'agit pas ici des fondements de la terre, mais de ceux du juste, car David pose la question de ce que fera le juste s'il advient que ses fondements soient renversés. Ainsi, la vie du juste est en danger s'il advient que ses fondements soient détruits. Je vais vous poser une question à présent. Par quoi le juste doit-il vivre? C'est exact, oui. Considérons cela en Habacuc, chapitre 2, verset 4. Où nous rendons-nous? En Habacuc, chapitre 2 et au verset 4. Habacuc, chapitre 2. Habacuc, c'est après Nahum, dans ce qu'on appelle les petits prophètes. Habacuc chapitre 2 et au verset 4. Habacuc 2 verset 4, et là il nous est dit: voici, l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Notez qu'il n'est pas dit ses fois, S-E-S, comme si le juste devait en avoir plusieurs, mais il est dit sa foi, S-A, ok? Ainsi, dans la vie du juste, il y a des fondements et une foi. Et le juste doit être spirituellement maintenu en vie grâce à ses fondements et à cette foi. Mais nous avons un problème. Il s'agit en fait d'un bon problème. Car après nous avoir dit qu'il y avait des fondements et une foi, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul fondement. En effet, en 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 et 11, où nous rendons-nous? C'est cela, en 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 et 11. En Corinthiens, chapitre 3, versets 10 et 11. où nous lisons « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde comme il bâtit dessus, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. » Jésus-Christ est le fondement sur lequel tous les croyants sont édifiés. C'est de lui que provient la vie du juste. Étant donné qu'il n'y a qu'un fondement, où pensez-vous que les fondements doivent se situer? Les fondements de Psaume 11, verset 3. Où doivent-ils se situer par rapport à ce fondement dont l'apôtre Paul nous parle? Prêtons de nouveau attention au verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et prêtez attention, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Le terme technique pour des fondements posés sur un autre fondement, mes amis, est pilier. Bon, ici, nous sommes au sous-sol de la maison de sœur Isabelle. Et voyez-vous, vous avez là, vous êtes assis, nous sommes présents ici sur une dalle, d'accord? Et cette dalle repose sur un fondement, d'accord? Il s'agit là de du fondement, en fait. Et sur, le fondement, vous avez des piliers qui maintiennent la maison, car nous sommes en dessous. Donc, là, vous avez différents poteaux, différents piliers, OK, qui soutiennent la maison. Donc, la maison où sœur Isabelle vit, elle repose sur ces piliers, et ces piliers eux-mêmes reposent sur un fondement. Vous suivez cela? C'est de cela dont l'apôtre Paul faisait mention. L'apôtre Paul posa le fondement pour les croyants de Corinthe, et Apollos continua à construire sur le fondement posé par Paul. Pensez-vous que ce qu'Apollos a bâti sur ce fondement était accessoire? Je ne le pense pas. Je pense plutôt qu'il s'agissait de supports fondamentaux, car au verset 5, l'apôtre déclare « Qui est donc Paul et qu'est Apollos sinon des ministres, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun ?» Paul et Apollos étaient des ministres de l'Évangile, et c'est par l'enseignement qu'ils bâtissaient. Dieu s'est donc servi de tels hommes afin que la foi des Corinthiens repose sur le fondement via des piliers. Cependant, comme prédit par le prophète Daniel, une puissance devait surgir afin de s'attaquer à l'édifice que Dieu construisit par le ministre d'hommes tels, par le ministère, je veux dire. Cependant, comme prédit par le prophète Daniel, une puissance devait surgir afin de s'attaquer à l'édifice que Dieu construisit par le ministère d'hommes tels que Paul et Apollos. Notez comment l'apôtre Paul décrit cette puissance en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Où allons-nous? C'est cela, en 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et au verset 3. De Thessaloniciens, chapitre 2 et au verset 3, « Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Je tiens à vous préciser que le terme qui est traduit ici par « révolte » dans la version que j'utilise eh bien, est apostasia. D'accord? Donc, traduit littéralement, c'est l'apostasie. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est la première chose que je voudrais vous signaler. Il s'agit là de l'apostasie. Et la deuxième chose que je souhaite vous signaler est que le terme traduit au verset 3 par perdition vient du grec apoleia, lequel peut notamment être traduit par détérioration, ruine, perte, perdition, mais aussi destruction. En clair, l'apôtre Paul expliquait aux Thessaloniciens que cette apostasie serait caractérisée par la destruction de l'édifice doctrinal de la foi des croyants. Voyez-vous, qu'advient-il si les piliers qui soutiennent la maison de sœur Isabelle, eh bien, adviennent à être détruits? Mes amis, eh bien, sœur Isabelle et sa famille ne sont pas en sécurité. Ils sont en danger, mes amis, car l'édifice, la maison, va s'écrouler. Si vous vous attaquez, que ce soit au fondement de cette maison, le fondement sur lequel cette maison est bâtie, ou que ce soit aux piliers qui soutiennent cette maison, mes amis, sous laquelle nous sommes en ce soir, eh bien, sœur Isabelle ainsi que le frère Luciano sont en danger. Ils sont en danger, mes amis. Dieu avait également prédit qu'une œuvre de restauration devait ensuite avoir lieu. En effet, en Ésaïe 58 et au verset 12, où allons-nous? En Ésaïe 58 et au verset 12. C'est ça. Ésaïe 58 et au verset 12, où nous lisons: les tiens rebâtiront les ruines antiques. Tu relèveras les fondements des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Lorsque les enfants d'Israël sont revenus de leur captivité à Babylone, ils durent rebâtir une ville en ruine afin de pouvoir y adorer. C'était là le type des croyants qui, revenus de leur captivité à Babylone spirituelle, durent rebâtir les fondements de la véritable adoration, laquelle est en esprit et en vérité. Et cette œuvre de restauration, les enfants d'Israël durent la commencer sur le chemin du retour. En effet, concernant l'époque de cette restauration, le prophète Jérémie annonça qu'une œuvre spéciale devait être accomplie. Rendons-nous en Jérémie, chapitre 31, verset 21, et notez attentivement ce qu'il est dit là. Et quant à moi, je ne lirai pas dans ma version, la version Osterwald que j'ai, mais je lirai dans la version Louis II, 21. Alors, rendons-nous en Jérémie 31, verset 21, et je vous invite à suivre la lecture que je ferai dans la Louis II, 21, de ce verset. Jérémie 31, verset 21, et comparé avec ce que la Louis II, 21 dit, « Dresse-toi des poteaux indicateurs, place des points de repère, prête attention à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, jeune fille d'Israël, reviens dans ces villes qui t'appartiennent. » Alors que les enfants d'Israël devaient retourner en terre promise, Dieu demanda à ce que des poteaux indicateurs et des points de repère soient érigés afin de marquer la voie empruntée. Ce qui implique, mes amis, qu'un groupe de pionniers dressa des poteaux indicateurs et plaça des points de repère afin que les groupes suivants puisse être à même de reconnaître le chemin menant à la fin de la captivité babylonienne. Et c'était là encore un type du groupe pionnier qui dut mettre en place des enseignements significatifs afin que leurs successeurs puissent être à même de connaître le chemin menant à la fin de la captivité de Babylone spirituelle. Je parle au passé car, comme nous le verrons dans les études prophétiques à venir, le groupe de pionniers antitypiques a accompli son œuvre de restauration il y a plusieurs années de cela. Toutes les présentations de ce week-end et du week-end prochain auront pour objectif d'établir le caractère fondamental des doctrines mentionnées par les commentaires inspirés suivants. Dans « Levez vos yeux en haut » à la page 344 et au paragraphe 4, nous lisons que, en 1844, après que le temps fut passé, les grandes et merveilleuses vérités reçues furent confirmées pour nous. Les dernières 50 années n'ont pas obscurci un seul détail ou principe de la foi reçue alors. Les âmes languissantes doivent être confirmées et revivifiées selon la parole du Christ. Pas un mot n'est changé ou renié. Ce que le Saint-Esprit témoignait être la vérité, après que le temps fut passé, dans notre grande déception, est le solide fondement de la vérité. Les piliers de la vérité furent révélés. Nous avons accepté les principes de base qui ont fait de nous ce que nous sommes, des adventistes du septième jour, qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Dans la tragédie des siècles, à la page 443, paragraphe 1, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste, était familière à tous les amis du prochain retour du Christ. Répétée par des milliers de bouches, elle était comme le mot d'ordre de leur foi. Mes amis, ici, dans les deux déclarations que nous avons vues, nous voyons que le sanctuaire fait partie des piliers de la foi. Le sanctuaire en est un, mes amis. OK? Car, comme nous l'avons vu ici, remarquez, cette déclaration était comme la base et la colonne centrale de la foi adventiste. OK? Donc, le sanctuaire en est un. La doctrine du sanctuaire est un pilier de la foi adventiste. Continuons avec événement des derniers jours, page 40 et au paragraphe 3. L'année 1844 fut riche en événements, ouvrant à nos yeux étonnés la purification du sanctuaire qui survient dans les cieux et qui a un rapport indéniable avec le peuple de Dieu sur la terre. Elle a également mis en évidence les messages du premier et du second ange ainsi que du troisième, développant ainsi la bannière sous laquelle sont inscrits les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'un des jalons qui accompagnait ce message, ce fut la révélation du temple de Dieu aperçu dans les cieux par son peuple fidèle à la vérité et de l'arche contenant la loi de Dieu. La lumière du sabbat du quatrième commandement fit jaillir ses rayons puissants sur le chemin des transgresseurs de la loi de Dieu. La nature mortelle des réprouvés est l'un de ses anciens jalons. Je ne puis rien invoquer d'autre au titre des anciens jalons de notre foi. Remarquez ici ce qu'elle cite comme jalon, mes amis. Jalon de notre foi. Il y a les messages des trois anges en deuxième position. Troisièmement, les commandements de Dieu. Quatrièmement, la foi de Jésus. Et cinquièmement, la non-immortalité des méchants. Voilà ce que cette déclaration nous apporte, mes amis, comme doctrine fondamentale, comme jalon de notre foi. Continuons avec « Vous recevrez une puissance » à la page 235, paragraphe 4. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ travaillent comme des aveugles. Ils essayent de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Mes amis, remarquez qu'elle dit ici qu'il y a les piliers de notre foi. Et elle commence par le sanctuaire, et après elle place un « ou ». Et qu'est-ce qui vient après ce « ou » ? Qu'est-ce qui est mis sur le même pied d'égalité que la colonne centrale, mes amis ? La personne de Dieu ou du Christ. Ou si vous préférez, la personnalité de Dieu ou du Christ. Donc ainsi, la personnalité de Dieu et de Christ sont... bien, cela est un pilier, mes amis, de la foi adventiste. Et continuons dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 109, paragraphe 2. La seule façon d'être en sécurité maintenant est de rechercher la vérité révélée dans la parole de Dieu, le trésor caché de la parole, le sabbat, la nature de l'homme, le témoignage de Jésus. Voilà les grandes vérités qu'il nous faut bien saisir. Elles seront pour les enfants de Dieu comme une ancre en ces temps troublés. Mais la grande majorité des hommes méprisent les vérités de l'Écriture et leur préfèrent des fables. L'apôtre Paul a écrit « Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Qu'avons-nous vu ici dans cette déclaration? Qu'est-ce qui est venu se rajouter ici que nous n'avions pas vu précédemment? Le témoignage de Jésus, mes amis. Le témoignage de Jésus. Ainsi, lorsque nous comptabilisons le nombre de doctrines qui nous ont été présentées comme étant fondamentales, comme étant des poteaux indicateurs ou des points de repère, nous avons, premièrement, le sanctuaire, deuxièmement, les messages des trois anges, troisièmement, les commandements de Dieu, quatrièmement, la foi de Jésus. Cinquièmement, la non-immortalité des méchants. Sixièmement, la personnalité de Dieu et de Christ. Et septièmement, le témoignage de Jésus. Et voilà, mes amis, les sept points fondamentaux sous lesquels la foi adventiste repose, d'après ce que nous dit l'esprit de prophétie. Et concernant ces points, il nous a été dit en Manuscript Releases, volume 1 à la page 53, que les vérités qui nous furent données juste après le passage du temps en 1844 sont tout aussi certaines et inchangeables que lorsque le Seigneur nous les a données en réponse à nos prières ferventes. Les visions que le Seigneur m'a données sont si remarquables que nous savons que ce que nous avons accepté est la vérité. Cela fut démontré par l'Esprit Saint. C'est la lumière, la précieuse lumière de Dieu qui établit les principaux points de notre foi, tels que nous les tenons aujourd'hui. Voyez-vous ici? Remarquez comment elle qualifie ces points. Elle parle de vérités qui sont certaines et inchangeables, mes amis. Et elle exprime, elle déclare que nous avons l'assurance que, eh bien, ça c'est bien la vérité que nous avons acceptée. Remarque avec quelle assurance elle déclare cela. Continuons. Et remarquez aussi que depuis tout à l'heure, quand elle parle de la foi, elle ne dit pas « ma foi à moi, Ellen White ». Elle dit « notre foi ». Elle parle avec un « nous », mes amis, avec la première personne du pluriel. Parce que beaucoup de personnes pensent que Dieu conduisait Ellen White et qu'il ne conduisait pas le peuple auquel elle appartenait, avec lequel elle militait, avec lequel elle avançait. Sauf que lorsque vous lisez Ellen White, depuis tout à l'heure, remarquez, lorsqu'elle parle de la foi et qu'elle parle de l'Église, elle dit « notre foi ». Remarquez cela. Continuons. Il est aussi certain que nous avons la vérité que Dieu vit. Et Satan, avec tous ses stratagèmes et son pouvoir infernal, ne peut changer la vérité de Dieu en un mensonge. Remarquez, mes amis, nous, ce n'est pas moi, c'est nous, encore une fois. Et donc, tous les points que nous avons vus là. Message choisi, volume 1, page 242, paragraphe 3. Des messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes du septième jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point par point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être mis en question. Mes amis, tout ce qu'on a vu là, les sept points que nous avons vus, on ne peut pas les remettre en question. Ça veut dire que ce que Dieu avait révélé à nos pionniers, mes amis, ne peut être remis en question. Et remarquez comment ils ont été obtenus. Par l'étude et la prière. Et point par point. Et c'est ces points-là qui ont fait de nous ce que nous sommes, dit-elle. Mais qui sont-ils? Des adventistes du septième jour, comme on l'a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, elle a dit, fais de nous ce que nous sommes, adventistes du septième jour. Ça veut dire que si vous retirez, mes amis, l'un de ces piliers, ou même ces piliers, ce n'est plus l'adventisme du septième jour. Ok? Message choisi, volume 1, page 235, paragraphe 2. En tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent... C'est quoi le mot qui vient là? C'est mon? Non. Notre. Notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Remarquez qu'au début, elle parle en tant qu'Église. Voyez-vous? Donc, ce sont bel et bien ces piliers-là, mes amis. C'est sept points-là qui ont caractérisé, qui ont déterminé l'adventisme du septième jour. C'est ces piliers-là qui définissent l'adventisme du septième jour. Sans ça, mes amis, l'adventisme du septième jour n'a pas de raison d'être. Premiers écrits maintenant, et à la page 258, paragraphe 3. J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Il me fut montré trois marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les trois messages, du premier, du second et du troisième ange. L'ange qui m'accompagnait me dit « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. » Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Mes amis, qui est-ce qui déclare la dernière phrase que nous lisons sur cette diapositive? Est-ce que c'est Ellen White? Non, c'est un ange, mes amis. Elle cite ici les paroles d'un ange. Elle cite ici les paroles d'un ange, mes amis. Et d'après cet ange, Malheur à celui qui retrancherait la plus minime partie de ces messages fondamentaux qui ont fait de nous ce que nous sommes, mes amis, à savoir des adventistes du septième jour. Et pourquoi cela? Parce que leur véritable signification est d'une importance vitale. Mais ce n'est pas tout. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Est-ce que vous vous rendez compte que les 7 points que nous avons vus là, mes amis, leur véritable signification est d'une importance vitale? Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Et est-ce que vous vous rendez compte que la destinée éternelle d'âme dépend de la manière dont ces messages-là sont reçus? Ça veut dire que des âmes peuvent être perdues si on modifie ces messages, si on retranche ces messages. Pensez-vous que notre édifice est complet? Il manque la pièce maîtresse, le fondement. Au début de cette présentation, nous avons vu que l'apôtre Paul déclare que Jésus-Christ est le fondement. Mais quel Jésus? Quel Jésus est le fondement? Mes amis, les 7 piliers que vous avez vus affichés ne sont d'aucune utilité s'ils ne sont pas supportés par le Jésus prêché par Paul et Apollos. Alors de nouveau, quel Jésus est le fondement? Qui mieux que Jésus pour répondre à cette question, n'est-ce pas? Entendons-nous en Matthieu, chapitre 16, et considérons-y les versets 14 à 18. Où nous entendons-nous? En Matthieu, chapitre 16, versets 14 à 18, c'est bien cela. Matthieu, chapitre 16, versets 14 à 18. Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Alors, lisons même à partir du verset 13. « Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, lui, répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre, ou il faut comprendre rocher, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Voilà, mes amis, le Jésus qui est le fondement de l'Église. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est ce rocher-là, sur ce rocher-là que Jésus a dit à Pierre qu'il bâtirait son Église. Considérons maintenant le commentaire inspiré à ce propos. En Jésus-Christ, à la page 407, paragraphe 3, Ellen White déclara « La vérité confessée par Pierre constitue le fondement de la foi du croyant. » Remarquez qu'ici, elle dit qu'il constitue le fondement de la foi du croyant. Et plus loin, à la page 409, paragraphe 2, elle dit que Pierre avait exprimé la vérité servant de fondement à la foi de l'Église. Mes amis, il ne s'agit pas seulement de la foi du croyant, mais de la foi de l'Église. C'est bien ce que Jésus a dit. Sous ce rocher, je bâtirai mon église. Ça veut dire que tant les membres du corps que le corps doivent être au clair là-dessus, doivent accepter cela. Pierre prêcha que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est sur Jésus-Christ, Fils de Dieu, que notre maître déclara qu'il bâtirait son église, mes amis. Pensez-vous que Jésus était fou quand il déclara cela? Je ne le pense pas, car il est la sagesse de Dieu. En effet, en 1 Corinthiens 1, verset 24, où allons-nous? En 1 Corinthiens 1, verset 24, c'est cela. Nous lisons ce qui suit. 1 Corinthiens 1, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Là, nous lisons. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Et considérons maintenant comment la sagesse de Dieu bâtit son Église. En Proverbe 9, verset 1. Proverbe, chapitre 9 et au verset 1. Le livre des Proverbes, au chapitre 1 et au verset 1. Et remarquez la chose suivante. Proverbe 1, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Mes amis, lorsque la sagesse, lorsque Jésus-Christ bâtit sa maison, son église, c'est avec les 7 piliers de la foi que nous avons vus tout à l'heure. Il y a des gens qui disent que l'adventisme est basé sur 3 piliers. Mais mes amis, ce n'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. Ainsi, voici les piliers de notre foi, mes amis. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 piliers. Selon que vous lisez dans la King James Version, ou colonne, pour les versions francophones. Et on a vu que le fondement de notre foi est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et on voit les piliers que l'on a vus tout à l'heure. La loi, le sabbat inclus, la personnalité de Dieu et de Christ, la foi de Jésus, le sanctuaire, les messages des 3 anges, le témoignage de Jésus, la non-immortalité des méchants. Et mes amis, l'ensemble du message de l'adventisme du 7e jour repose sur ces piliers et sur ce fondement. Mes amis, la foi du juste repose sur des piliers, lesquels ne peuvent être compatibles qu'avec le fondement de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mes amis, dans quelle maison vivez-vous? Vivez-vous dans les ruines du Fils de perdition? Pire encore, se pourrait-il que vous soyez d'accord avec la forme de ces piliers, mais que ceci repose en fait sur un fondement autre que celui de Jésus-Christ, Fils de Dieu? Si oui, alors considérez attentivement la voix du Fils de Dieu en Luc chapitre 6, versets 48 et 49. Et ce sera notre dernier texte pour ce soir. Où allons-nous? Luc, chapitre 6, versets 48 et 49. Prenons notre texte de conclusion. Luc, chapitre 6, versets 48 et 49. Et lisons même à partir du verset 47. Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui n'écoute et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison et qui, ayant fouillé et creusé profondément, en a posé le fondement sous le roc et l'inondation est venue, le torrent a donné avec violence contre cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sous le roc. Et prêtez attention au verset 49. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est semblable du moins à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent a donné avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison-là a été grande. Mes amis, quel genre d'expérience religieuse avons-nous eu jusqu'ici? Sur quel fondement avons-nous fait reposer notre foi? Ma prière pour vous et moi est que notre expérience religieuse puisse subsister au grand conflit à venir, et ce parce qu'elle sera basée sur ces piliers et ce fondement, mes amis. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.